en dire des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est un homme en colère que nous recevons aujourd'hui. Un personnage fort en gueule, la voix du mythique groupe de rock Trust, dont le tube antisocial au tournant des années 80 est encore repris régulièrement aujourd'hui dans les manifestations. Rocker, Bernie Bonvoisin l'est assurément, mais il sait aussi écrire et tourner, comme le film Les Démons de Jésus, il y a déjà un peu plus de 20 ans. Deux mois après la sortie du nouvel album de Trust, dans le même sens qu'Alain Pilot vous a présenté dans cette émission avec enthousiasme il y a quelques semaines, c'est à la fois pour un livre et pour un film qu'il vient nous voir aujourd'hui. Le film La misère entre deux jardins, on l'a vu voici deux ans dans le magazine Envoyé spécial, puis sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Le livre La danse du chagrin vient de sortir aux éditions Don Quichotte. Il raconte l'aventure de ce film avec des mots forts et humains dans lesquels on reconnaît la verve, l'indignation et la sincérité de Bernie Bonvoisin.
Je suis venu au Liban voir ce qu'il en était de ces hordes de crevards qui prenaient d'assaut nos frontières pour nous voler nos emplois et cramer nos allocs. J'ai décollé mon cul de mon divan, éteint ma télé après 59 mois passés à regarder le peuple syrien se faire écraser dans un silence vertigineux. Celui qui lui fait misère est un ex-ophtalmo, sanguinaire et fluet, prénommé Bachar. Ses potes de régiment l'appellent aussi « tête de poule ». J'ai trempé mes pieds dans cette flaque de misère qui stagne dans la vallée du monde, entre la montagne enneigée libanaise et la montagne aride syrienne. J'y ai rencontré des femmes, des hommes, des enfants, des vieux, dignes. J'y ai vu la terreur dans leurs yeux, l'étouffement dans leurs mots, leurs corps meurtris, leurs bras ouverts, et combien ils aimaient leur terre. J'y ai vu l'esclavage, la malnutrition, la crasse, la leur, la nôtre. Le manque d'hygiène, de pain, de soins. Mais j'y ai aussi vu la lumière.
Bonjour Bernie Bonvoisin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est par ces mots, des mots très forts, on l'a compris, que démarre ce 52 minutes. Il résume très bien l'état d'esprit à la fois du livre et du film. Je disais en commençant cette émission que c'est un homme en colère que je reçois aujourd'hui. Est-ce que c'est un homme qui, de temps à autre, quand même, n'est pas tenté de désespérer de l'être humain?
Si, il y a de quoi. Il y a toutes les raisons du monde. Mais en même temps, voilà, il y a toujours des...
Il y a toujours de la lumière.
Comme oui, il y a toujours de la lumière. Il y a toujours des êtres qui font en sorte de... Voilà, de revenir au centre des choses, quoi. Parce que c'est là, en fait, la problématique. De revenir, ce que l'humain revienne au centre des choses.
Message adressé d'abord aux Occidentaux. C'est à eux que oui. Vous vous adressez là dans les
oui,
premières lignes. Quand
oui,
vous
absolument.
Parlez évidemment au second degré de toute la crainte et de tout le rejet que les migrants peuvent générer chez les Occidentaux.
Tout ça est le fruit de nos lâchetés, de nos manquements. Enfin voilà, il y a énormément de problématiques aujourd'hui dans le monde et particulièrement au Moyen-Orient qui sont le fruit de paroles non tenues il y a très longtemps par les puissances colonialistes que nous étions et ce genre de choses. Je prendrais pour exemple les Kurdes ou des gens comme ça, des gens à qui on a promis des terres et qui n'ont pas tenu la parole, quoi.
Ça fait longtemps, Bernie Bonvoisin, que vous vous intéressez de près à ce qui se passe dans cette région, à ce qui se passe au Moyen-Orient.
Ouais.
Pourquoi? Le déclencheur, ça a été quoi?
Non, mais c'est le biais, c'est par le biais aussi de la culture. Hein. Moi, je suis très, j'aime beaucoup les auteurs de ces pays-là. J'aime la musique, la peinture, l'architecture. Enfin voilà quoi, tout ce qui touche à. Je veux dire, on parle de civilisation qui déjà maniait les nombres et les. Et l'écriture à une époque où nous on avait des peaux de bêtes sur le dos et on courait dans les forêts encore.
Vous étiez déjà allé sur place, allé dans cette région avant de vous y rendre?
Oui, je connaissais la Jordanie, ouais. Mais pas le Liban, non, j'avais jamais mis les pieds, c'était un rêve depuis très longtemps, puisque j'avais suivi à l'époque, quand il y a eu la première guerre du Liban et la seconde. Je dirais que la sensibilisation de tout ça est venue par la sensibilité que j'ai pour la cause palestinienne.
Oui. Alors racontez-nous justement comment est né ce film, parce que vous dites dans le livre, je n'ai pas l'habitude de démarcher.
Non,
ça veut dire qu'on est venu vous chercher?
Non, mais là je l'ai fait. Là, je l'ai fait. Je sais pas. J'ai vu un nombre incalculable de reportages, de documentaires. Enfin, comme tout à chacun, quoi. Enfin, je parle de ceux qui ont. Voilà, j'ai suivi vraiment les révolutions arabes par le biais des chaînes arabes, par aussi Al Jazeera et d'autres chaînes comme ça. H24, vraiment, quand c'est passé, la Tunisie, l'Égypte et tout. Et puis voilà, le début du conflit syrien. Et puis j'ai vu le déclenchement. Ça a été ce reportage de la télévision anglaise sur une petite fille. Voilà.
Alors pourquoi rajouter un film au film? Pourquoi rajouter le vôtre, Bernie Bonvoisin? Parce que vous dites je.
Oui, oui.
Ça, c'est important.
Donc, oui, oui.
Dès
oui,
le départ,
oui.
C'était clair qu'il fallait que vous soyez un des acteurs du film, qu'il fallait que vous apparaissiez à l'écran et que vous donniez votre regard à vous, personnel.
Oui,
et
c'est un quelque chose de déstructuré, mais en même temps. La condition sine qua non de la faisabilité du projet, c'est ça, c'est d'avoir une liberté totale, d'avoir ce qu'on appelle communément une carte blanche, et que j'ai eu aussi bien du côté de Première Ligne que de France 2, que d'LCP. Mais c'était voilà, je savais pas concrètement vers quoi j'allais, et puis même en étant parti avec une idée dans la tête, dès le premier jour, il a fallu changer totalement de fusil d'épaule, parce que ce à quoi nous étions confrontés n'avait rien à voir avec ce que nous imaginions. Donc voilà, il y a quelque chose de très vivant, de déstructurer dans la forme, dans le fond, dans le commentaire. Voilà, moi je voulais les choses, je pense que c'est essentiel de les faire sans filtre, sans sas.
Première étape, direction Saïda, immeuble Ouzaïr.
Lui, c'est Koussaï, 11 ans. Il a malgré son jeune âge des choses dans son regard qu'il ne peut pas dire. Il vient d'une région où on a toujours fait du coton et du blé. Depuis 2013, on y fait de la tête coupée. Mon hôte m'invite à la découverte de son habitat. Des humains vivent ici, apparemment. Extérieurement, ça fait peur. Intérieurement, c'est terrifiant. Je ne le dis jamais, mais là je le dis. Seigneur, le lascar qui a eu l'idée de loger des gens dans cette chose, sa mère la pute.
Il y a de quoi effectivement, de quoi s'indigner quand on voit ces images, Bernie Bonvoisin. Dans La Danse du Chagrin, vous décrivez cet immeuble dans lequel on vit à 6 dans une pièce. Vous dites la peste humaine suinte des murs, l'odeur, c'est vraiment ça qui au départ vous a sauté au visage. Et aussi le contraste entre ce quartier-là et puis le centre de Beyrouth extrêmement luxueux.
Ça, on est logé, on est dans la un peu dans la partie ce qu'appelle les Libanais communément la partie Hariri, quoi.
Du nom de Saad et auparavant de Rafik Hariri.
Voilà.
Donc famille sunnite au pouvoir et très riche.
Beaucoup d'argent, beaucoup de voilà. Et cette disparité, c'est-à-dire que vous faites 300-400 mètres, les gens mangent leur pompe et puis de l'autre côté, les types tellement ils s'ennuient, ils viennent rouler le vendredi soir avec des Lamborghini, des Ferrari et s'amusent à faire du frein à main.
Ouais, donc c'est vraiment la rencontre, c'est la naissance.
Ouais, c'est deux mondes vraiment. C'est complètement disproportionné, quoi.
Ouais. Et donc dans cet immeuble, il y a un mot qui arrive tout de suite sous votre plume et qui arrive évidemment aussi à votre bouche dans le commentaire du film. C'est le mot digne. Alors là, je suis obligé de vous poser la question parce que c'est donc d'un film dont il s'agit, Bernie Bonvoisin. Comment est-ce qu'on filme la misère? Comment est-ce qu'on présente la misère au monde et singulièrement aux Occidentaux en préservant la dignité des gens qui y habitent?
Mais elle est omniprésente de par
leur. On n'a pas à la chercher.
On n'a pas à la chercher, elle est là, quoi. Mais constamment, ça c'est quelque chose d'incroyable. Vous savez, ça fait partie. C'est comme la propreté. En fait, ces gens sont dans le dénuement le plus extrême, mais ils sont toujours propres. Alors, les vêtements, les chaussures ne sont pas nécessairement neufs, mais c'est une constante. Et dans l'attitude, dans les regards, même si quand on parle avec cette femme d'Alep, on sent que quand on pose la question, il y a combien de temps que vous n'avez pas mangé de viande et tout, il y a une gêne, quoi. Oui. Il y a un truc qui est comme ça, mais la réponse, elle est frontale et elle est voilà, quoi. Et je pense vraiment, comme le dit le petit Marwan plus tard au camp de Faïda, quand il me dit quand je vais rentrer en Syrie, je ferai un barbecue pour les et j'inviterai tous les pauvres. Donc je dis mais pourquoi les pauvres? Parce que c'est pas sale d'être pauvre.
Celui qui tenait la caméra, c'est Pedro da Fonseca. Ouais. Alors, il y a des choses qu'il s'est refusé à filmer ou des choses qu'il a coupées au montage, qu'il s'est refusé à diffuser.
Non, il y a des choses qu'on n'a pas voulu montrer parce qu'il n'y avait pas la nécessité. En l'occurrence, surtout quand on est allé donc chez ces gens qui arrivaient d'Alep, ce couple avait donc 3 enfants. Et il y avait une petite fille qui devait avoir une dizaine d'années qui était trisomique, où la mère la nettoie tous les 10 jours, est obligée de faire je sais pas combien de chemin pour l'emmener parce qu'elle a pas de soins, elle peut pas se déplacer. Et donc voilà, et ça on a, quand on est rentré dans ce truc là déjà, ce qu'on s'est pris dans la tête, c'était compliqué. Si en plus on devait rentrer dans ces choses là c'était hors de question, quoi.
Nouvelle étape, le camp palestinien de Bour el Barajni dans la banlieue sud de Beyrouth, hein, qui est le fief, ouais, du parti chiite libanais Hezbollah. Nouvel extrait de votre documentaire produit, je le rappelle, par Première Ligne.
Depuis le début de la guerre syrienne, une grande partie de la population palestinienne de Syrie s'est replié ici, où il n'y a plus de place. 23 000 Palestiniens ont vu débouler 20 000 Syriens, dont ceux de Yarmouk qui ont subi plus de 600 jours de siège. Iman, 9 ans, en compagnie de son éducateur Fawaz, est représentatif de ce qui est ici la double peine, celle d'être palestinien et syrien. Chassés de Palestine en 1948 vers la Syrie, les voilà de nouveau sur la route de l'exil.
Raconte-moi quand vous êtes arrivé.
J'ai eu un choc.
Pourquoi ?
D'abord, nous nous sommes retrouvés dans un immeuble que je ne connaissais pas. C'était la première fois que je quittais mon pays. Et je ne savais pas ce qu'on venait faire ici.
Tu étais surprise de venir habiter ici ? C'est ta maman qui t'a dit que tu allais habiter ici ?
Oui.
Qu'est-ce que tu as fait quand elle te l'a annoncé ? Tu étais d'accord ?
Non, c'était un peu difficile.
Pourquoi ?
Parce que j'ai découvert une vie qui n'était pas la mienne.
Tu as trouvé une vie qui n'est pas la tienne.
Notre rythme de vie a changé, le rythme de la famille a changé. Et on ne savait pas ce que nous réservait l'avenir. Moi, j'avais peur de ce que nous réservait l'avenir.
Iman, quelle est la différence avec ta vie d'avant ? Qu'est-ce qui a changé ?
Là-bas, la vie était beaucoup plus belle et on était heureux. Mais ici, je suis malheureuse. Il n'y a rien qui me fait plaisir.
Voilà, extrait du dialogue entre cette petite fille syrienne de 9 ans, hein, Iman, et son éducateur Fawaz. Et comme vous, Bernie Bonvoisin, rien qu'à l'écoute, là, mais c'est aussi le cas quand on voit les images, on est frappé par l'incroyable maturité de cette petite fille, j'allais presque dire de cette jeune fille. Il est clair qu'elle a grandi trop vite.
Ah mais tous, c'est vraiment moi ce qui m'a... Dès qu'on a eu les premiers entretiens, le premier jour, quand on était à Faïda, à côté de Zahale, il était évident qu'il était, qu'il fallait vraiment revoir toute la ligne directrice du truc, puisqu'on n'avait pas à faire, on pouvait pas demander à ces gamins qu'est-ce que t'as fait de ton doudou, ce genre de choses. Puis ils sont dans une maturité absolument vertigineuse. Alors, ça peut être, on peut être très très épaté par ça.
Et pourtant, quand on réfléchit, on se dit, ils ont loupé quelque chose.
Et les psychothérapeutes nous expliquent qu'en fait, le mal, c'est ça, quoi. Alors, leur travail à eux, c'est de les ramener à l'enfance.
Eh ben, on va écouter justement une psychothérapeute qui s'appelle Mata Atassi Elgir. Elle fait partie des gens que vous avez rencontrés. Elle travaille avec des enfants. Alors, c'est pas dans le camp de réfugiés palestiniens. C'est dans un autre endroit.
C'est au centre Adnan, à Tripoli.
On l'écoute.
Les enfants de la Syrie sont comme des bombes à retardement. Ils peuvent exploser si on ne les prend pas en charge. Si on ne les soutient pas pour leur montrer le bon chemin. Ils vivent des moments très difficiles. C'est incroyable de voir une génération complète confrontée à des situations si effrayantes. Ils sont devenus hostiles. Ils souffrent de nombreux problèmes. Nous avons un garçon ici. Il ne dessine que du sang, des couteaux et des balles. Et quand on lui demande pourquoi, il répond « Je veux me venger ». Imaginez toute une génération éduquée à la vengeance, à la haine. C'est quelque chose de terrible.
Et cet accompagnement, Bernie Bonvoisin, il passe par le travail donc avec ses psychothérapeutes, il passe par le dialogue, par la discussion, ouais. Il passe aussi par l'apprentissage, par l'école, hein, le Fawaz qu'on entendait tout à l'heure.
Oui, l'éducation. Hein.
Voilà, c'est l'éducation, il apprend l'arabe, l'anglais, les maths aux enfants. Et puis il y a aussi le théâtre, et ça c'est vraiment un des moments très forts, je crois, de vos 26 jours de séjour au Liban, cette répétition de théâtre là qui se déroule devant vous. Et ces enfants, ils jouent quoi? Ils parlent de quoi? Et ils parlent des migrants.
Oui, ils parlent des migrants, de ce drame terrible qu'il y a eu en Autriche, au bord d'une autoroute. On a retrouvé des gens qui étaient morts asphyxiés dans un camion frigorifique. Et c'est sur l'initiative des enfants que la pièce a été montée, quoi.
Comme une sorte de catharsis?
Oui, il y a c'est assez étonnant,
c'est très fort, d'autant que ça commence par des rafales de mitraillettes. Ouais, on entend effectivement dans le film, c'est effectivement assez saisissant. Donc vous êtes déjà dans cette émotion là quand vous entamez après la discussion avec le groupe de gamins. Alors c'est plutôt bon enfant dans un premier temps.
Totalement, voilà, c'est leur poser des questions, savoir ce qui leur manque le plus de leur pays, de la Syrie, quoi.
Ouais, donc, et puis arrive le témoignage de ce petit garçon qui va vous bouleversez.
Oui, bien sûr.
Racontez-nous, qu'est-ce qu'il vous dit, ce petit garçon?
C'est-à-dire que, à un moment, il dit ça en plus en souriant. Donc, Janine Jalk.
Janine Jalk, qui est journaliste à L'Orient Jour, qui vous a accompagné, qui a été un peu votre fixeuse, mais beaucoup plus que ça.
Et donc, on a pensé sur le moment qu'il déconnait, quoi, comme déconnent les ados quand ils sont entre et qu'il y a des groupes et tout, voilà, quoi. Et en fait, il nous dit, moi, j'aimerais retourner en Syrie, pour aller sur la tombe de mon père. Et donc j'ai pas la traduction tout de suite, et en même temps je le regarde et je le vois qui se marre, quoi. Donc bon, il y a une espèce de... et là il y a une jeune fille qui était là qui part en courant se cacher dans un coin. Donc il y en a deux trois qui la suivent, et là le groupe explose. Et Fawaz se retourne vers ce gamin et lui dit « C'est très bien, c'est la première fois que tu as le courage de le dire. » Et là, j'ai la traduction, quoi.
Et c'est à ce moment-là que vous rendez compte.
Et là, je m'aperçois qu'en fait, on est dans un truc avec des enfants, dans quelque chose qui touche à l'enfance, dans une ambiance comme ça, un peu machin, un peu survoltée, mais que les démons de ces enfants sont là, quoi. Ouais. Sont omniprésents, quoi. C'est-à-dire qu'il suffit d'un rien pour que ça revienne. Ouais. Moi, j'étais hyper mal parce que j'ai posé la question, et donc...
Vous vous excusez, vous savez plus trop où vous mettre. Et c'est une petite réfugiée syrienne qui vient vous rassurer.
Et c'est elle qui vient vous rasséréner et qui me fait ce truc, moi, dont j'en parle encore, c'est... je me souviens toute ma vie, quoi. Elle est venue m'essuyer mes larmes, quoi. Et elle s'est excusée.
Oui, renversement de situation qui est incroyable. Vous avez beaucoup pleuré, Bernie Bonvoisin, pendant
tous les jours.
26 jours au Liban.
Tous les jours.
Ça veut dire que vous n'arriviez pas à prendre le recul.
Non, puis je voulais pas. Enfin, vous pouvez pas, c'est impossible. Vous savez, même si on s'y est préparé, même si on sait que ça va pas être simple et tout, quand vous êtes confronté à ça, et encore une fois par le biais des enfants, ça vous met dans un truc, mais c'est surréaliste. On parlait de Tripoli tout à l'heure, le petit Souhel, quand il nous a raconté, lui a été arrêté par les Chabia, la police politique de Bachar, quand il vous raconte ce qu'ils lui ont fait, c'est des choses qui impactent vraiment, quoi.
Souria, ya Souria, ana mishtaq lek ya Souria, wa am tal'a jabal kullu kirmalek Souria, Souria ana mishtaq lek qad ad-dinya kulla Souria, ya Souria, ana mishtaq lek ya Souria.
C'est un autre des très nombreux moments forts de ce voyage au Liban, de ce film, de ce tournage au Liban que vous avez dirigé, Bernie Bonvoisin, ces enfants syriens, réfugiés, qui chantent la Syrie, le regard tourné vers la montagne, vers la montagne, et par-delà la montagne, vers leur pays.
Vers leur pays, ça c'est le petit Marwan, il est d'Idlib. Et ils sont une famille de 15, c'est le seul à travailler comme esclave, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Ils travaillent pour 2 euros par jour, ils ramassent des pommes de terre tous les jours.
100 jours de repos pendant 4 mois, hein, c'est ce que vous racontez, parce que vous enquêtez là. Vous faites un vrai travail journalistique, parce que vous n'arrivez pas à comprendre que quand on a 7 ans, parce que je crois que le plus jeune il a 7 ans, on puisse comme ça être exploité. On n'est pas très loin de l'esclavage moderne, quoi.
Ah mais on est dans l'esclavage moderne, et puis surtout qu'on est encadré par l'UNICEF, par des organisations comme ça, quoi. Ça c'est quand même assez incompréhensible.
Oui. Alors vous en prenez beaucoup. Alors dans le film, pas tant que ça. Il y a quelques allusions comme ça où vous vous demandez, mais que fait l'ONU, que fait l'UNICEF. Mais alors dans le livre, vous y allez au canon, si je puis dire, Bernie Beauvoisin.
Non, j'y vais pas au canon. J'y vais. Voilà, je raconte ce que j'ai vu, quoi. Dans le livre, quand je parle de la vidéo d'Handicap International et toutes ces choses, voilà, moi c'est ce que j'ai vu, c'est ce que ces gens m'ont donné. Après, c'est tout. Je pense que ça serait essentiel à un moment qu'il y ait des éclaircissements là-dessus. Quoi.
Des éclaircissements, ça veut dire, on pourrait le comprendre comme ça, que les Nations Unies et certaines ONG, vous vous en prenez à certaines grosses ONG,
vous citez
les noms. Hein,
l'UNHCR, l'UNICEF.
Ça veut dire que ce seraient des complices, au moins par passivité, de ce qui se passe là-bas ?
Écoutez, ça gère tellement d'argent. Il y a un moment, on est en droit de se poser la question, quand on voit ce dénuement, est-ce que, où passe cet argent ?
Mais est-ce qu'on pourrait se passer d'eux ?
Moi, je pense que ces gens auraient tout à gagner en donnant les fonds aux associations locales.
Donc en déléguant directement sur place sur terrain.
Les locaux, et ça on l'a vérifié tout au long du séjour, les locaux font vraiment un travail, comme le dit très bien Maria qui dirige l'association Beyond, l'humanitaire c'est H24. C'est pas s'arrêter le vendredi à 17h parce que c'est le week-end et reprendre lundi matin.
Là dans le livre il y a une histoire, une anecdote, mais c'est terrible d'utiliser ce mot-là pour décrire. Ouais. C'est assez terrifiant, c'est-à-dire que il y a un problème grave qui se produit le vendredi soir. Et il faut attendre le lundi après-midi.
Il faut attendre le lundi après-midi pour que les types disent voilà, on est là, si vous avez besoin d'un truc, et répondent 2 jours après, si vous voulez, on a des couvertures pour vous. C'est-à-dire que c'est passé 5 jours.
Ouais.
Et donc les gens de Beyond répondent à l'UNHCR, mais vous savez, on s'en est occupé, parce que si on attend après au fait que vous agissiez, ces gens-là, ils font quoi pendant 5 jours?
Ouais, et puis on apprend aussi au détour d'une séquence dans le film que ces tentes estampillées UNHCR, elles sont pas gratuites.
Non,
c'est-à-dire que les réfugiés
faut payer un loyer.
Ils sont locataires aussi.
Ouais, il y a 110 dollars de loyer. Et l'aide humanitaire, c'est 110 dollars.
Voilà.
Après, vous faites comment pour manger?
Eh ben, il faut que les enfants travaillent. On y revient toujours là, parce que les parents, eux, ils peuvent pas travailler.
Les parents.
Ça, c'est extraordinaire. Ouais. C'est très étonnant, ça, quand on ignore la situation.
Ouais, quand ils rentraient, quand les Syriens rentraient au Liban, ils signaient une décharge comme quoi ils s'engageaient à ne pas travailler. Donc, les enfants travaillent. Ils ne sont pas contrôlés par les autorités.
Donc c'est sur les enfants, sur le travail des enfants qu'on impose la survie de la famille.
Voilà, le petit Marwan qui a été retiré de l'école pour aller travailler, pour nourrir une famille de 15. Hein. C'est à 2 euros par jour.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
VMDN avec Bernie Bonvoisin qui publie La danse du chagrin aux éditions Don Quichotte, et en duplex du studio de RFI à Bruxelles grâce aux bons soins de Pierre Benazet. Deux photographes nous ont rejoints. Johanna de Tessière, bonjour.
Bonjour.
Olivier Papeny, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie tous les deux d'un collectif de photographes belges, le collectif Huma, qui a monté un projet intitulé Hashtag Je suis humain, qui a débouché sur une exposition photo itinérante. Alors on sait, on l'a bien compris depuis le début de cette émission, à quel point le mot humain est important pour Bernie Bonvoisin. Quelle est l'ambition de ce collectif, et l'ambition plus précisément de ce projet Je suis humain, Johanna de Tessière?
Eh bien, en fait, l'ambition de ce projet, ça partait d'un constat, parce que nous, on est 4 photographes à avoir travaillé sur cette expo, et tous les 4, on s'est rendus dans ces pays qui ont été cités, donc l'Irak, la Jordanie, le Liban, certains d'entre nous aussi en Syrie. Et après avoir passé du temps là-bas, on a vu tout ce, par exemple, ce que Bernie avait décrit, la misère, la fuite, la peur. Et on a photographié ça, on a communiqué là-dessus, évidemment. Et puis on a eu envie d'aller plus loin, parce que c'est, ça c'était un constat, c'est clair, c'est un constat qui est dramatique, mais au-delà de ce constat, on a eu envie de parler de ces personnes dans leur résilience. C'est-à-dire que même dans un pays en guerre, la vie continue. La vie d'ailleurs est très intense dans un pays en guerre.
Oui.
Et donc, une fois à Bruxelles, déjà aussi pour nous, pour notre propre propre optimiste, pour garder foi en l'humanité, on s'est dit on va continuer à parler de ce sujet qui nous tient vraiment à cœur, mais de manière plus positive. Et surtout, on a envie de montrer ces personnes telles qu'elles aimeraient bien se montrer.
Vous racontez effectivement des histoires humaines. Alors, par exemple, Olivier Papny, comme Bernie Bonvoisin, vous vous êtes rendu dans des camps de réfugiés de la plaine de la Beka, au Liban. Alors, Bernie Bonvoisin, je lui ai passé trois de vos photos. Quelle est celle, Bernie, qui vous touche ou qui vous intéresse le plus, j'allais dire, qui vous interpelle?
Bah déjà, c'est un travail photographique. En tout cas, moi, les rendus que j'ai là, c'est super beau, quoi. Je dirais cette photo de cette femme qui est assise sur un fond violet.
Elle s'appelle Sobie Omish.
Voilà.
Voilà, elle est assise effectivement avec une béquille à la main.
Parce que je trouve il y a une chose assez étonnante. J'en parle dans le livre. C'est les couleurs que peut avoir la misère, quoi.
Oui. Alors ça, c'est intéressant, effectivement. Racontez-nous l'histoire donc de cette dame qui a une cinquantaine d'années, Olivier Papny. Elle a voulu justement à travers ses étoffes, à travers ses tapis très colorés, donner l'image de la vie à son habitat. On peut dire ça comme ça?
On peut tout à fait dire ça comme ça. C'est une forme de résilience. Donc là, on est dans un camp informel. Il faut savoir que aucun camp de réfugiés au Liban n'est autorisé. Donc ce sont tous des camps informels. Elle a voulu reproduire en fait son univers, sa vie là-bas en Syrie. Et je pense qu'effectivement, comme disait Bernie, c'est toujours impressionnant quand on rentre dans l'univers des personnes réfugiées, de voir à quel point ils ont une dignité et une envie de quand même recréer leur espace comme peut-être ils l'étaient chez eux. Voilà, cette dame a fui donc son village suite à des bombardements et des tirs. Et effectivement, elle a, comme vous l'aviez dit, elle a une canne parce qu'elle a été malheureusement touchée par une balle perdue dans le bras et dans la jambe.
Oui, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Hein. C'est-à-dire que les réfugiés, quel que soit leur âge, quel que soit ce qu'ils ont vécu auparavant, Olivier Papny, ont toujours, comme on le disait tout à l'heure avec Bernie Bonvoisin, l'ambition, l'objectif et presque la certitude intime de rentrer dans leur pays. C'est ça, en fait, qui les fait continuer à vivre.
Oui, effectivement. Je pense qu'effectivement, chacun d'eux a envie de retourner chez eux en sachant que voilà, ça va pas être très simple et que de toute façon, pour garder l'optimisme, on est obligé de se projeter dans un avenir plutôt que de stagner dans son présent.
Alors, il y a aussi des photos que... Oui, Bernie.
Non, je disais, enfin, franchement, ils s'en foutent d'habiter à Francfort ou ailleurs. Quoi.
Exactement.
C'est les gens qui...
Oui, d'ailleurs, vous dites à plusieurs reprises dans le livre, personne n'a envie de quitter son pays.
Non, c'est... Enfin, voilà, c'est les gens qui ont des métiers. Les enfants allaient à l'école, ils travaillaient, ils vivaient, ils avaient des maisons.
Parfois, et même souvent, très, très diplômés, d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux.
En plus, c'est important à souligner, mais les Syriens, quand même, sont un des peuples les plus éduqués, les plus... des peuples arabes, quoi. Donc,
Alors, il y a aussi des photos que vous signez, Johanna de Tessière, cette fois également dans des camps de réfugiés. On va rester là-bas pour l'instant. Ça se passe non pas au Liban, mais en Jordanie, avec par exemple cette photo que Bernie Bonvoisin a également devant lui. Ça se passe dans le camp de Za'atari, avec cet enfant qui joue au ballon et qui est un peu comme en lévitation.
Ouais.
Ça, c'est une photo d'Olivier, donc je lui laisse la parole.
Ah bah on va lui redonner la parole.
Très belle photo.
Alors Olivier Papny, racontez-nous cette photo, parce qu'on a un peu l'impression, presque une dimension presque à la fois très très réaliste et presque mystique, d'une certaine façon.
Oui, bah alors il faut savoir que c'est pas parce qu'on vit dans un camp de réfugiés qu'on est qu'on n'est plus rien et que la vie s'est arrêtée. Un camp de réfugiés, c'est aussi toute une société qui reprend forme, toute une ville, tout un village qui reprend vie avec ses boutiques, avec ses écoles, avec ses centres de soins, avec ses enfants qui sont encore pleins d'énergie et plein d'espoir et qui ont envie de jouer.
C'est quoi une photo humaine, Johanna de Tessière? C'est quoi une photo humaine? Puisque c'est le mot, effectivement, qui sous-tend tout ce projet.
Pour nous, ce qui a été important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de photographier aussi ces personnes, et c'est ce qu'on a fait aussi en Belgique, telles qu'elles voudraient être représentées. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a aussi un ras-le-bol de l'état de victime. Et je pense que c'est un ras-le-bol notamment du public, parce que malheureusement, des mauvaises nouvelles, on en entend tout le temps. Et aussi de ces mêmes personnes réfugiées qui en ont assez d'avoir juste une étiquette collée à leur front et à marquer victime, comme si ces personnes n'avaient pas de nom, pas de prénom, pas de métier, pas de vie. C'est comme si c'était un job d'être victime. Et pour moi, une photo humaine, c'était justement rendre la dignité à ces personnes.
Bernie, vous aviez cet objectif-là en tête.
Bah, on n'a pas affaire à des chiffres, quoi. On a affaire à des êtres humains, à des hommes, à des femmes.
Mais comment vous les avez trouvés, ces enfants, ces personnages? Parce que vous n'êtes pas allé au hasard, vous saviez précisément où aller et qui interroger.
Janine Jacques nous a beaucoup débroussaillé les choses. Mais pour revenir là à ce qu'on disait, moi, la petite Shaima, à un moment, je lui ai dit, mais toi, ta condition de réfugié, tu la vis comment? Sa réponse, elle a 11 ans, c'est de me dire, mais moi, mes parents, ils m'ont pas appelé réfugié, quoi.
Oui, je suis une petite fille. Je ne suis pas une réfugiée. Quoi.
Donc c'est essentiel cette notion. Je veux dire, la dignité passe par ça aussi. Quoi. C'est-à-dire un moment de ne pas se perdre. Et elle a fait cette aide sublime au secrétaire général de l'ONU qui s'appelle Les Nombres, où elle explique « Rendez-moi ma terre et je vous laisserai vos nombres ». Voilà, c'est une chose. Encore une fois, on a affaire à des êtres humains, quoi.
Alors ces êtres humains-là, Johanna de Tessière, comment vous aussi vous les avez trouvés? Parce que ces destins que vous racontez, vous les avez pas rencontrés d'une façon complètement aléatoire, j'imagine. Vous avez fait une enquête, vous saviez précisément où vous... Un petit peu quand même.
Un petit peu quand même. C'est exactement ce genre de personnes, de profils que je cherchais. On cherchait à rencontrer et à témoigner de ces personnes donc, qui étaient arrivées en Belgique, qui avaient des parcours difficiles, mais qui prenaient complètement leur vie en main, malgré toutes les embûches qu'elles pouvaient avoir sur leur chemin. Et donc, par exemple, j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Yara, à une réunion qui s'appelle de la plateforme des citoyens, qui a fait énormément de choses pour les réfugiés. Je l'ai rencontrée, elle était en train de faire la cuisine, en fait, pour cette plateforme, et sa personnalité m'a vraiment très impressionnée. Donc, elle raconte son parcours, elle est syrienne, elle arrive en Belgique, elle raconte comment, lorsqu'on arrive à l'Office des étrangers en Belgique, la méfiance qu'elle a dû persuader son interlocuteur en faisant sa demande d'asile, qu'elle avait vraiment l'impression qu'elle devait convaincre son interlocuteur qu'elle n'était pas une folle qui allait se faire exploser en plein milieu de Bruxelles.
Oui, ce sont vraiment ses mots. C'était une suspecte.
Bah oui. Totalement. Alors, elle raconte aussi la grande surprise de son interlocuteur quand elle a dit qu'elle avait un diplôme universitaire. Ce que j'aime beaucoup avec Yara, c'est qu'elle a eu envie de faire de tout ça quelque chose de positif et elle a voulu aider à changer l'image de son pays. Parce qu'elle dit, je comprends que le type à l'Office des étrangers, il réagit comme ça. Quand on parle de la Syrie maintenant, il n'y a plus que Daesh, les bombes, la destruction... Et donc, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a monté un catering, enfin un service traiteur de nourriture, et elle fait à manger, elle cuisine syrien, elle a monté un petit business avec d'autres femmes réfugiées syriennes, et c'est sa manière à elle de parler de la Syrie de façon positive.
Oui, parce qu'il y a eu aussi cette rencontre dans un train avec une autre Syrienne qui s'appelle Arla, et là aussi c'est un hasard, et en même temps une rencontre qui va générer effectivement une autre aventure personnelle.
Exactement, c'est vraiment magnifique cette rencontre, parce qu'un jour Yara est dans un train et elle voit une femme qui a l'air perdue et elle se dit c'est une femme de mon pays, je vais voir si elle a besoin d'aide, elle lui parle et puis elles ont fait connaissance et ensemble elles ont eu cette idée de monter quelque chose et elle s'est dit voilà, cette femme comme Harlam, qui arrivent en Belgique, qui sont complètement perdues, qui n'ont pas de diplôme, mais par contre, elles savent faire des choses, ces femmes. Et qu'est-ce qu'elles savent faire? Elles savent faire à manger, et elles savent faire à manger pour énormément de gens. Et ben moi, je vais utiliser ce don, ce skills, pour mettre en valeur ces femmes et leur autonomie. Parce que l'autonomie, c'est quelque chose de vraiment très important pour les réfugiés. Et Yara, elle le dit très bien, elle dit, en fait, l'aide sociale nous fait suffoquer. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse la chance de montrer qui on est.
La plaine de la Beka.
Note du Kotob Trio avec au violoncelle un musicien syrien qui s'appelle Bassel et dont vous nous racontez l'histoire en texte et en photo, parce qu'il y a toujours des textes qui accompagnent les photographies dans l'exposition. Johanna de Tessière, vous pouvez nous raconter en quelques mots son parcours, parce que celui-ci non plus est singulier.
Oui, très singulier. Je tiens à saluer aussi les textes qui ont été écrits par Laure de Rennes, qui fait partie de notre collectif.
Oui.
Oui, donc la rencontre avec Bassel, la première fois que je l'ai vu, il donnait un concert avec un groupe qui s'appelle Kotob. C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup surpris, que j'ai trouvé très intéressant, parce que déjà, il était au départ un petit peu réfractaire au projet. Et ça, je trouvais ça intéressant aussi. Il avait sa propre opinion sur les choses. Il était très jeune, donc quand la guerre est arrivée en Syrie, et je pense que ça l'a énormément bouleversé. Et je dois relire les chiffres à chaque fois, que je trouve ça incroyable, mais il dit, en gros, dans mon quartier, en quelques années, il y a eu 25 voitures piégées et 3200 roquettes.
Ouais.
Voilà, il a vécu ça à l'âge de 14 ans.
Mais alors, comment est-ce que vous l'avez convaincu, justement, d'accepter de travailler avec vous, puisqu'il était réticent au début?
Ben, je pense que je l'ai convaincu en lui disant déjà la vérité, que j'étais pas sûre que ce qu'on faisait allait changer quoi que ce soit, mais que au moins on avait le sentiment d'être utile et d'essayer de se battre pour nos idées. Et lui a dit bon, alors d'accord, on va le faire, ça fera pas de mal, mais la seule chose qui pourrait aider pour moi, c'est que on se mobilise tous pour que on arrête le trafic d'armes, et que tant que tout le monde descendra pas dans la rue pour dire stop aux armes, les choses vont continuer.
Ça pose la question de l'utilité du témoignage et ouais, du travail journalistique et artistique aussi, devant ce qui se passe en Syrie. Bernie Beauvoisin, vous vous êtes posé la question aussi, vous vous êtes dit, bon, faisons-le, ce sera un témoignage, ça fera pas de mal, ou vous aviez vraiment en tête l'idée de changer réellement quelque chose.
Non, c'est pas changer, c'est extrêmement compliqué et puis ça serait très présomptueux. Non, moi ce que je voilà, la seule idée que j'avais en tête, c'était de me dire voilà, j'espère que ces enfants vont pouvoir traverser l'écran et aller s'asseoir quelques minutes dans nos canapés, dans nos salons quoi. Ouais.
Et plus seulement voilà, sous le périphérique parisien dans la jungle de Calais
voilà, d'Agar. Le but c'était ça quoi et que forcément ça n'a pas changé fondamentalement les choses, mais par contre je sais que chez certaines personnes ça fait bouger des lignes, que ça a ramené un peu d'argent, que voilà, il y a eu du soutien, il y a des gens, enfin voilà, il y a eu des initiatives après ce documentaire qui ont été faites par des gens qui ont été touchés par ce projet. Moi je reçois du courrier de partout, du monde entier, d'Indonésie, d'Australie, de voilà. Donc voilà, c'est vous savez, tout à l'heure on parlait de colère, c'est pas de la colère au sens propre du terme, c'est surtout de la colère dans le sens de voilà, de comme font ces gens en Belgique et tout, de rester éveillé quoi, de rester vigilant.
Est-ce que la colère, c'est un sentiment que vous avez ressenti, Olivier Papny, en allant sur le terrain? Je pense par exemple à votre travail dans la jungle de Calais, où vous êtes rendu quelques mois avant son démantèlement. Quelles sont les images que vous avez gardées de ce voyage très particulier-là?
En ce qui concerne la jungle de Calais, la dernière image que j'ai en tête, c'est, je pense, la dernière que j'ai faite là-bas, enfin, en tout cas dans la jungle, c'est le premier jour du démantèlement. C'est en fait, c'est un groupe de gens qui s'est retrouvé au bout d'une frontière, face à la mer, avec une envie d'aller vers le Royaume-Uni parce qu'ils ont peut-être plus de tâches et de liens dans leur passé avec ce pays. Ces gens qui ont tout quitté chez eux pour se retrouver de nouveau presque en famille, en tout cas avec des liens forts d'amitié, et puis qui du jour au lendemain de nouveau sont explosés et amenés à quitter le lieu pour repartir vers d'autres horizons, là où un gouvernement a décidé de les placer. Moi, l'image qui me marque, ce sont ces deux Érythréens qui s'enlacent très fortement juste avant de monter dans l'écart et qui pleure. Et là, évidemment, on peut pas rester insensible, et évidemment là on a un sentiment de colère en soi qui ne peut, en tout cas pour moi, être traduit que au travers de l'image, et je pense que c'est comme ça qu'on peut toucher les âmes.
Bernie Bonvoisin, quel regard est-ce que vous portez sur la façon dont les Européens, et quand je dis les Européens, c'est à la fois les pouvoirs publics et nous tous, hein, les habitants, les votants, les électeurs, les citoyens, les êtres humains d'une façon générale, gèrent, le mot est terrible, mais c'est le mot qu'il faut malheureusement employer, gèrent le dossier des migrants.
Déjà, pour moi, il y a un distinguo hein, qu'on devrait faire justement. Il y a un migrant, c'est un migrant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va quitter son pays pour des raisons économiques ou autre chose. En ce qui concerne les Syriens sont des réfugiés quoi. En Syrie, on leur jette des barils de TNT sur la gueule quoi tous les jours, et nous, on les bombarde, la coalition, voilà. Donc, quand vous voyez les photos d'Alep, vous pouvez comprendre sans être avoir fait des études spécifique autre chose, comprendre que les gens aient envie de partir d'une ville pareille. Enfin, je pense, hein, c'est un réflexe là, pour le coup, humain. Non, moi je trouve qu'on gère tout ça en dessous des choses, mais en même temps, l'Europe n'a plus de face, la France n'a plus de face. On est dans des nations aujourd'hui, qui se couchent pour un oui, pour un non, où il n'y a plus de courage, où il n'y a plus de courage politique, où il y a juste de la bouche, voilà, des phrases à l'emporte-pièce, des choses, des bonnes intentions, mais rarement suivi.
Il y a aussi des gens qui agissent sur le terrain en Europe.
Il y a des gens qui agissent sur le terrain, mais en même temps, c'est quand même curieux que très souvent, les gens qui agissent pour ces causes-là, soit souvent, se retrouvent au pénal ou se retrouvent en prison ou en garde à vue.
Oui, l'aide à l'immigration illégale, il y a des condamnations.
Et que je n'aurais de cesse de le dire, on a oublié que nous aussi, on est partis sur les routes avec nos valises, avec nos matelas sur le dos, et qu'on a été bien contents de trouver des pays qui nous ont ouvert la porte au moment où on en avait besoin, quoi.
Merci beaucoup à tous les trois, Bernie Bonvoisin. Je rappelle que votre livre La Danse du Chagrin est publié chez Don Quichotte. Merci également à Johanna de Tessière et Olivier Papny du collectif Huma et au studio de RFI à Bruxelles. Merci.
Merci à vous.
Merci à vous.
Je bois un café serré au comptoir en bois. Je prends la rue des Canettes. Je le passé des courants d'air, les mots d'autrefois de Villon d'Apollinaire trottent dans le froid. Au sortir de mes pensées, je passe la Seine sur le pont des Argevins. Je reviens à toi, tous les jours je m'y reviens.
Je reviens à toi, Marc Lavoine sur RFI. Bonjour Alain Pilot.
Bonjour Jean-François, bonjour Bernie, mon voisin.
Alors
bonjour.
On disait tout à l'heure, hein, vous aviez déjà chroniqué Alain, le nouvel album de Trust au moment de sa sortie, et vous avez tout de suite emballé, hein, en tant que fan de la première heure.
Mais c'est vrai que je n'hésitais pas à l'époque à faire 200 km en moto dans la nuit et dormir à la Belle Étoile en hiver pour aller voir Trust à Pau, par exemple, en 79, et écouter la voix singulière de Bernie.
Voilà, j'espère que tous vos fans sont et continuent d'être
de faire,
ainsi.
Absolument.
Alors on va revenir au disque du jour. Alain, je reviens à toi, c'est donc le titre de ce nouvel album de Marc Lavoine, un album qui l'a voulu comme un hommage à la vie et à tous ceux qui sont autour de nous.
Oui, c'est l'esprit de ces 10 nouvelles compositions, de celui à qui l'on doit notamment pour Une Begin avec toi, Les yeux revolvers, qui a déjà 35 ans, ou Le parking des anges. Dans le deuxième extrait que nous allons écouter, il parle du passé comme s'il venait de se produire, se rappelant qu'il est arrivé à Paris à 16 ans et a commencé à travailler à l'Olympia et a tourné dans son premier film un an plus tard.
Dans les parfums qu'on a aimés, les mots qu'on croyait oublier, rien ne s'en va de ma mémoire, ni ton visage, ni ton regard. Dans le fond, qu'est-ce qui a changé? On est juste un peu fatigué, un peu las de nos sanglots.
Le titre s'appelle 45 tours. Alors Marc Lavoine, qui est un grand amateur de duo, hein, se souvient entre autres de ceux avec Catherine Ringer, Bambou, Claire Kaim, Christina Marocco ou encore Valérie Lemercier, et qui récidive sur ce nouvel album.
À deux reprises, avec un certain Roman Lavoine, qui n'est autre que son fils de 10 ans. Son autre garçon a fait des débuts dans le hip-hop il y a quelques années. Il en était d'ailleurs très fier à l'époque, au point de m'avoir même fait écouter ses maquettes. Il faut dire que Marc Lavoine adore le langage du rap, et au sein de cet opus, il faut signaler la présence également de Benjamin Biolay sur Un chagrin n'arrive jamais seul, alléluia.
Un chagrin n'arrive jamais seul. Tu le sais bien, toi qui me pleures. Le ciel est devenu linceul.
Marc Lavoine et Benjamin Biolay, Un chagrin n'arrive jamais seul, alléluia. Le chagrin, comme dans le titre de votre ouvrage, Bernie Bonvoisin, un mot qui revient beaucoup dans les chansons de celui que vous avez fait tourner dans votre film Blanche, Bernie, avec qui vous avez travaillé à l'Olympia de Paris aussi.
Aussi.
Vous l'avez soufflé à l'instant. Chagrin qu'il ne faut pas confondre avec tristesse, précise le chanteur, pour qui un chagrin d'amour ou un chagrin tout court peut vous construire.
Des chagrins donc, mais aussi des retrouvailles sur ce disque, Alain.
Oui, avec son compositeur qu'il a connu alors qu'il avait 20 ans, Fabrice Aboulker, le tout enregistré dans trois villes, Los Angeles, Londres et Paris. On notera aussi parmi les différents réalisateurs Mitchell Froome, le mari de la chanteuse américaine Suzanne Vega. Marc Lavoine lui co-réalise trois titres, le précédent et celui-ci qui est l'un des plus réussis à mon humble avis.
C'est ainsi que la vie s'en va, plus de mots et plus de possibles, plus de force dans les bras, ni pour se prendre par la main, ni pour se soulever du sol. Devenu trop lourd le chagrin, c'est déjà la fin du chemin. Seul, définitivement.
Seul, définitivement. Alors, de quelle manière Marc Lavoine travaille-t-il ?
Seul, définitivement. C'est un travail quotidien. Il trouve une phrase ou deux ou trois, une idée qu'il laisse tomber, puis qu'il reprend. Cela débouchera sur une chanson, un livre ou un film. Il est dans une espèce de mouvement perpétuel et essaye de ne pas le perdre.
Le temps perdu, je le connais. Il a la gueule de mes regrets. Il a du soleil dans les yeux, du sable blanc dans les cheveux. Le temps perdu, je l'ai laissé. Sur une chaise dans un café, sur une photo il me sourit, nous étions beaux et bons amis.
Le temps perdu, nouvel extrait donc de son dernier album de Marc Lavoine, Je reviens à toi. Marc Lavoine qui sera en tournée française et francophone entre autres les 18 et 19 octobre à la Scène Musicale près de Paris, le 13 novembre à Bruxelles et à Pau dans les Pyrénées le 14 décembre. Merci beaucoup Alain pour cette belle découverte. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec les comédiens Corinne Touzé et Jean Ernst Marie-Louise pour une pièce intitulée Voyage en ascenseur à l'affiche du théâtre Rive Gauche dans le quartier du Montparnasse à Paris, et vous m'en direz des nouvelles.